From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake.
Ici le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous allez assister à la 183e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor.
Dieter F. Uchtdorf, deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session.
Brothers and sisters, we welcome you this afternoon.
Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue cet après-midi à la cinquième et dernière session de la 183e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Thomas S. Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous adressons nos salutations aux membres de l'Église et aux amis de partout qui suivent cette session à la radio, à la télévision, sur l'Internet ou par satellite. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle sous la direction de Mac Wilberg et Ryan Murphy avec Linda Margetts et Bonnie Goodleaf à l'orgue. Le chœur ouvrira cette session en chantant « Vrais disciples du Seigneur ». Ensuite, Carol M. Stephens, première conseillère dans la présidence générale de la Société de secours, fera la prière d'ouverture. Après quoi, le chœur chantera « Raconte-moi les histoires de Jésus ».
Children. Cher Père Céleste, nos cœurs remplis de reconnaissance et d'amour. Nous sommes reconnaissants d'être rassemblés sous l'action d'un prophète vivant, le président Monson. Nous le soutenons, nous l'aimons. De même, nous exprimons notre reconnaissance à ses conseillers, le président Haring et le président Urdorf, et chacun des membres des 12. Nous les soutenons et nous les aimons. Nous te prions de les bénir, leur foyer, leur famille. Nous sommes reconnaissants de tout ce qu'ils font pour édifier ton royaume sur la terre. Et nous sommes reconnaissants de pouvoir servir avec eux dans cette œuvre si importante. Nous sommes si reconnaissants, Père, de connaître ton plan pour chacun de tes fils et tes filles. Si reconnaissants de savoir que nous sommes de nature divine et avons un destin divin et que tu as un plan pour chacun d'entre nous individuellement. Nous te remercions de ces bénédictions, de cette connaissance. Nous sommes reconnaissants d'avoir la possibilité de nous rassembler aujourd'hui et d'apprendre et de progresser et d'être encouragés par les dirigeants que tu as choisis. Nous te prions de nous bénir à la fin de cette réunion pour que nous ayons la capacité de œuvrer dans notre foyer, dans notre collectivité, et de nous engager avec tous ceux que nous servons de différentes manières, que nous aurons le courage de faire ce que tu veux que nous fassions et d'être ce que tu veux que nous soyons. Nous te prions de nous bénir, de nous accorder les oreilles pour écouter les paroles de tes serviteurs aujourd'hui, et que nous ayons le cœur doux afin de comprendre ta volonté pour chacun d'entre nous personnellement et pour notre famille. Te prions de nous faire que nous quittions cette session avec la résolution de faire les choses que tu veux que nous fassions afin que nous soyons fortifiés, que notre foyer et notre famille soient fortifiés et que nous puissions aller dans le monde et aider à édifier ton royaume ici sur la terre. Nous t'aimons. Nous aimons ton Fils. Nous savons que c'est par lui que nous pouvons faire tout cela et être les personnes que tu veux que nous soyons. Nous t'exprimons notre reconnaissance, notre amour pour lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Thank you.
Nous aurons
maintenant le plaisir d'entendre Jeffrey R. Holland et Dallin H. Oaks du Collège des Douze Apôtres. Ils seront suivis de Christopher Golden Fils des 70.
On one occasion, Jesus
came. Un jour, Jésus tomba sur un groupe de personnes qui débattaient vivement avec ses disciples. Quand le Seigneur demanda ce qui avait provoqué cette querelle, le père d'un enfant affligé s'avança, disant qu'il était allé trouver les disciples de Jésus pour qu'ils bénissent son fils, mais qu'ils n'avaient pas pu le faire. Tenant l'enfant, qui continuait à grincer des dents, la bouche pleine de bave, et se débattait par terre, le père fit appel à Jésus avec dans la voix ce qui devait être l'énergie du désespoir. Si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. » La conviction initiale de cet homme est, de son propre aveu, limitée. Mais il a un désir urgent, pressant, pour son fils unique. Il nous est dit que c'est suffisant pour commencer. Alma déclare, « Même si vous ne pouvez faire que désirer croire, laissez ce désir agir en vous jusqu'à ce que vous croyez. » Comme il ne lui reste aucun espoir, ce père affirme ce qu'il a de foi et supplie le Sauveur du monde. « Si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. » Je peux difficilement lire ces paroles sans pleurer. Le pronom pluriel « nous » est utilisé clairement de manière intentionnelle. L'homme dit en fait « Toute notre famille te supplie. Nos difficultés ne s'arrêtent jamais et nous sommes épuisés. » Notre fils tombe dans l'eau, tombe dans le feu. Il est continuellement en danger et nous appréhendons sans cesse. Nous ne savons pas vers qui d'autre nous tourner. Peux-tu nous aider? Nous serons reconnaissants de tout ce que tu feras. Une bénédiction partielle, juste une lueur d'espoir, un petit allègement du fardeau que le père de la mère de ce garçon porte chaque jour de sa vie. Les mots « si tu peux faire quelque chose » prononcés par ce père lui sont retournés par le maître. « Si tu peux. » L'Écriture dit « aussitôt ». Pas lentement, ni avec scepticisme, ni cynisme, mais aussitôt. Le père s'écrie dans son authentique douleur de père « Je crois. » Viens au secours de mon incrédulité. En réponse à cette nouvelle foi et encore partielle, Jésus guérit le garçon, le ressuscitant presque littéralement des morts, comme le décrit Marc. En m'appuyant sur ce récit émouvant des Écritures, je voudrais m'adresser aux jeunes de l'Église, jeunes en nombre d'années, ou en nombre d'années dans l'Église, ou jeunes dans la foi. D'une manière ou d'une autre, cela devrait nous concerner à peu près tous. La première chose que l'on remarque concernant ce récit est que face au défi d'avoir la foi, le Père affirme tout d'abord sa force, et ensuite seulement reconnaît ses limites. Sa première déclaration est affirmative et sans hésitation. « Je crois ». Je dirais à tous ceux qui souhaitent avoir plus de foi, souvenez-vous de cet homme. Dans les moments de crainte ou de doute, ou dans les périodes de trouble, occupez le terrain que vous avez déjà conquis, même si ce terrain est limité. Dans la progression que nous devons tous connaître dans la condition mortelle, l'équivalent spirituel de l'affliction de ce garçon ou du désespoir de ce père arrivera à chacun de nous. Quand ces moments surviennent, quand les moments surgissent et qu'ils ne se résolvent pas immédiatement, accrochez-vous fermement à ce que vous connaissez déjà et tenez bon jusqu'à ce que vous obteniez plus de connaissances. C'est au sujet de cet incident même, de ce miracle, que Jésus a dit « Si vous aviez la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne « Transporte-toi d'ici là » et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Le problème, ce n'est pas l'ampleur de votre foi ou le niveau de votre connaissance, mais l'intégrité que vous démontrez à l'égard de la foi que vous possédez et la vérité que vous connaissez déjà. La deuxième chose que je remarque est une variation de la première. Quand des problèmes et des questions surgissent, ne commencez pas votre quête de la foi en disant à quel point vous n'en avez pas. Ne commencez pas par votre incrédulité. C'est comme vouloir farcir une dinde par le bec. Soyons bien clairs à ce propos. Je ne vous demande pas de faire semblant d'avoir la foi que vous n'avez pas. Je vous demande d'être fidèle à la foi que vous avez. Parfois, nous agissons comme si une honnête déclaration de doute est une plus grande manifestation de courage moral qu'une honnête déclaration de foi. Ce n'est pas le cas. Souvenons-nous tous du message clair de ce récit scripturaire. Soyez aussi honnête que vous devez l'être à propos de vos doutes. La vie en regorge sur un sujet ou sur un autre. Mais si vous et votre famille voulez être guéris, ne laissez pas ces doutes empêcher la foi d'accomplir son miracle. De plus, vous avez plus de foi que vous ne le pensez à cause de ce que le Livre de Mormon appelle la grandeur des preuves. Jésus a dit, vous les reconnaisserez à leurs fruits. Et les fruits de l'Évangile sont partout visibles dans la vie des saints des derniers jours. Comme Pierre et Jean l'ont dit aux pharisiens, je vous le dis, nous ne pouvons pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et ce que nous avons vu et entendu, c'est qu'un miracle signalé a été accompli dans la vie de millions de membres de cette Église. Nous ne pouvons pas le nier. Frères et sœurs, c'est une œuvre divine qui va de l'avant, s'accompagnant de manifestations et de bénédictions visibles de toutes parts. Alors ne vous affolez pas. S'il survient de temps en temps des problèmes qui doivent être examinés, compris et résolus, des problèmes surviennent et surviendront. Dans cette Église, ce que nous connaissons l'emportera sur ce que nous ne connaissons pas. Et souvenez-vous que dans ce monde céleste, tout le monde doit marcher par la foi. Soyez donc compréhensifs face aux faiblesses humaines, aux propres faiblesses, comme celles de personnes qui servent avec vous dans cette Église, dirigée par des hommes et des femmes bénévoles. À part le cas de son fils unique parfait, les personnes imparfaites sont tous ceux avec quoi Dieu a toujours dû travailler. Cela doit être terriblement frustrant pour lui, mais il s'en arrange. Et nous devrions faire de même. Et lorsque vous voyez de l'imperfection, souvenez-vous que la limite n'est pas dans la divinité de cette œuvre. Comme un écrivain talentueux l'a suggéré, lorsque la plénitude infinie est déversée, ce n'est pas la faute de l'huile s'il y a des pertes, parce que les récipients finis ne suffisent pas à la contenir. Vous et moi sommes des récipients finis. Soyez donc patients et sachez pardonner. Dernière remarque, quand vous avez un doute ou une difficulté, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Si nous le voulons, aussi humblement et honnêtement que ce Père, nous pouvons en recevoir. Les Écritures qualifient ce type de désir fervent d'intention réelle, suivi d'un cœur pleinement résolu, ne commettant ni hypocrisie ni tromperie devant Dieu. En réponse à ce genre-là d'insistance, je témoigne que Dieu enverra toujours de l'aide des deux côtés du voile pour fortifier notre foi. J'ai dit que je m'adressais aux jeunes. C'est toujours le cas. Dernièrement, un garçon de 14 ans m'a dit, avec un peu d'hésitation, « Frère Holland, je ne peux pas encore dire que je sais que l'Église est vraie. Mais je crois qu'elle l'est. » J'ai serré le garçon dans mes bras jusqu'à lui couper le souffle. Je lui ai dit, avec toute la ferveur de mon cœur, que croire est un mot précieux, un acte encore plus précieux, et qu'il ne devait jamais s'excuser de seulement croire. Je lui ai dit que le Christ lui-même a dit, ne crains pas, crois seulement. Un bout de phrase qui a envoyé le jeune Gordon Binkley dans le champ de la mission. J'ai dit à ce jeune garçon que croire est toujours le premier pas vers la conviction et que les articles de foi qui définissent notre foi collective commencent tous par « nous croyons ». Et je lui ai dit à quel point j'étais fier de lui pour l'honnêteté de sa quête. Avec l'avantage que me donnent près de 60 années, depuis le moment où j'ai été un jeune croyant de 14 ans, je déclare certaines choses que je sais maintenant. Je sais que Dieu est en tout temps et de toutes les façons et en toutes circonstances notre Père céleste aimant. Je sais que Jésus est son seul enfant parfait, dont la vie a été donnée avec amour par la volonté du Père et du Fils pour notre rédemption à nous tous qui sommes imparfaits. Je sais qu'il est ressuscité des morts afin de vivre à nouveau, et grâce à cela, vous et moi y aurons droit aussi. Je sais que Joseph Smith, qui reconnaissait qu'il n'était pas parfait, a néanmoins été l'instrument choisi entre les mains de Dieu pour rétablir l'Évangile éternel sur la terre. Je sais aussi que cela, en particulier par la traduction du livre de Mormon, m'en a enseigné plus sur l'amour de Dieu, plus sur la divinité du Christ, plus sur la vérité éternelle et plus sur le pouvoir de la prêtrise qu'aucun autre prophète au sujet duquel j'ai pu lire, que j'ai pu connaître ou dont j'ai pu entendre parler au cours de toute une vie de recherche. Je sais que le président Monson, qui se dirige avec dévouement et bonne humeur vers le 50e anniversaire de son ordination en tant qu'apôtre, est le successeur légitime qui revêt ce manteau de prophète. Je sais que 14 autres hommes que vous soutenez comme prophètes, voyants et révélateurs, le soutiennent de leurs mains, de leur cœur et de leurs propres clés apostoliques. Je déclare ces choses avec la conviction que Pierre appelait la parole prophétique plus certaine. Ce qui fut jadis pour moi une minuscule semence de foi a grandi jusqu'à devenir un arbre de vie. Donc si votre foi est mise à l'épreuve, en cette saison ou en n'importe quelle autre, je vous invite à vous appuyer sur la mienne. Je sais que cette œuvre est la vérité même de Dieu. Nous ne ferions que nous mettre en péril si nous permettions aux doutes et aux malins de nous éloigner du chemin. Continuez d'espérer, continuez d'avancer. Reconnaissez honnêtement vos questions et préoccupations, mais attisez avant tout la flamme de votre foi. Car tout est possible à ceux qui croient. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
One of our most beloved hymns,
l'un de nos cantiques préférés, interprété par le chœur du tabernacle ce matin, commence par ces mots. Viens et suis-moi, a dit le Sauveur. Suivant ses pas menant au bonheur, le seul moyen pour être uni au Fils de Dieu, à Jésus-Christ. Ces paroles, inspirées par la toute première invitation du Sauveur à ses disciples, ont été écrites par John Nicholson, converti écossais. Comme beaucoup de nos premiers dirigeants, il avait fait peu d'études, mais avait un grand amour pour notre Sauveur et le plan de salut. Tous les messages de cette conférence nous aident à suivre les pas de notre Sauveur, dont l'exemple et les enseignements définissent le chemin de chaque disciple de Jésus-Christ. Comme tous les autres chrétiens, les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours étudient la vie de notre Sauveur telle qu'elle est rapportée dans les livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean dans le Nouveau Testament. Je vais examiner des exemples et des enseignements contenus dans ces quatre livres de la Sainte Bible et j'invite chacun de nous, ainsi que tous les autres chrétiens, à réfléchir à la façon dont cette Église rétablie et chacun d'entre nous correspondent à la définition de disciples du Christ. Jésus a enseigné que le baptême était nécessaire pour entrer dans le royaume de Dieu. Il a commencé son ministère en se faisant baptiser, et ses disciples et lui ont baptisé d'autres personnes. Nous faisons de même. Jésus commença sa prédication en invitant les gens qui l'écoutaient à se repentir. C'est encore aujourd'hui le message que ses serviteurs portent au monde. Tout au long de son ministère, Jésus a donné des commandements, et il a enseigné « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Il a affirmé que pour garder ses commandements, ses disciples devraient délaisser ce qu'il appelait ce qui est élevé parmi les hommes et la tradition des hommes. Il a également donné cet avertissement. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Comme l'apôtre Pierre l'a plus tard déclaré, les disciples de Jésus devaient être un peuple acquis. Les saints des derniers jours comprennent que nous ne devons pas être du monde ou enchaînés par la tradition des hommes, mais comme d'autres disciples du Christ, nous trouvons parfois qu'il est difficile de nous séparer du monde et de ses traditions. Certains se façonnent selon les voies du monde, car, comme Jésus l'a dit de certaines personnes qu'il instruisait, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ces refus de suivre le Christ sont trop nombreux et trop délicats pour que nous les mentionnions ici. Ce sont toutes les pratiques du monde qui vont du politiquement correct et de l'extravagance dans l'habillement, et la présentation aux déviations par rapport aux valeurs de base comme la nature et la fonction éternelle de la famille. Les enseignements de Jésus n'étaient pas conçus pour être théoriques. Ils ont toujours été censés être mis en pratique. Jésus a enseigné « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent » qui a bâti sa maison sur le roc. Et heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Dans un autre de nos cantiques bien-aimés, nous chantons « Apprends-moi, Jésus, à t'aimer, à marcher sur tes sentiers. Apprends-moi, Jésus, à t'aimer. Seigneur, je te suivrai. » Comme Jésus l'a enseigné, les gens qu'il aime respectent ses commandements. Ils seront obéissants, comme le président Munson l'a enseigné ce matin. Suivre le Christ n'est pas une pratique désinvolte ou occasionnelle, mais un engagement et un mode de vie constant qui s'applique en tout temps et en tout lieu. Le Sauveur a enseigné ce principe et la manière dont nous devions nous le rappeler et être fortifiés pour le suivre quand il a institué l'ordonnance de la Sainte Cène, la communion comme d'autres l'appellent. Nous savons par la révélation moderne qu'il a commandé à ses disciples de prendre les emblèmes en souvenir de lui. Les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours suivent ce commandement chaque semaine en assistant à un service de culte au cours duquel ils prennent le pain et l'eau et font alliance de toujours se souvenir de lui et de garder ses commandements. Jésus a enseigné qu'il faut toujours prier. Il a également montré l'exemple comme quand il passa toute la nuit à prier Dieu avant d'appeler ses 12 apôtres. Comme d'autres chrétiens, nous prions dans tous nos services de culte. Nous prions aussi pour être guidés et nous enseignons que nous devons souvent prier en privé et nous agenouiller chaque jour pour prier en famille. Comme Jésus, nous prions notre Père Céleste et nous le faisons au nom sacré de Jésus-Christ. Le Seigneur a appelé 12 apôtres pour l'assister dans son Église et leur a donné les clés et l'autorité nécessaires pour poursuivre son œuvre après sa mort. L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, en tant qu'Église rétablie de Jésus-Christ, suit cet exemple dans son organisation et dans la manière dont les clés et l'autorité sont conférées aux apôtres. Certaines personnes que Jésus a appelées ne l'ont pas suivi immédiatement, mais ont voulu un délai pour remplir leurs obligations familiales. Jésus a répondu, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Beaucoup de saints des derniers jours mettent en pratique la priorité que Jésus a enseignée. C'est le cas de milliers de missionnaires d'âge mûr, exemplaires et d'autres qui quittent leurs enfants et leurs petits-enfants pour remplir le devoir missionnaire auquel ils ont été appelés. Jésus a enseigné que Dieu créa l'homme et la femme et qu'un homme quittera ses parents et s'attachera à sa femme. Notre attachement à cet enseignement est bien connu. Dans la célèbre parabole de la brebis égarée, Jésus a enseigné que nous devons faire l'impossible pour partir à la recherche de celles qui se sont éloignées du troupeau. Comme nous le savons, le président Monson a fortement souligné ce principe par ses exemples et ses enseignements mémorables sur la nécessité de secourir notre prochain. Dans nos efforts pour secourir et servir, nous suivons l'exemple unique de notre Sauveur et ses enseignements pleins de tendresse sur « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Il nous a même commandé d'aimer nos ennemis. Et dans ses grands enseignements, à la fin de son ministère terrestre, il a dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Dans le domaine de l'amour réciproque, Jésus a enseigné que lorsque des gens nous font du tort, nous devons leur pardonner. Beaucoup ont du mal avec ce commandement difficile, mais nous connaissons tous des exemples inspirants de saints des derniers jours qui ont pardonné avec amour même les torts les plus graves. Par exemple, Christ Williams s'est appuyé sur sa foi en Jésus-Christ pour pardonner au conducteur ivre responsable de la mort de sa femme et de deux de leurs enfants. 2 jours seulement après la tragédie, et toujours profondément désemparé, cet homme, prêt à pardonner, qui était alors évêque, dit « En tant que disciple du Christ, je n'avais pas d'autre choix ». La plupart des chrétiens donnent aux pauvres et aux nécessiteux, comme Jésus l'a enseigné. L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et ses membres excellent dans la mise en pratique de cet enseignement de notre Sauveur. Nos membres contribuent généreusement aux œuvres de bienfaisance et rendent personnellement service et font d'autres dons aux pauvres et aux nécessiteux. De plus, nos membres jeûnent pendant 2 repas chaque mois et donnent au moins le coût de ces repas comme offrande de jeûne que nos évêques et présidents de branche utilisent pour nos membres dans le besoin. Nos jeûnes pour aider les affamés est un acte de charité, et lorsqu'il est fait avec des intentions pures, c'est un festin spirituel. Le service humanitaire mondial de l'Église est un peu moins connu. En utilisant les fonds donnés par des membres généreux, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours envoie des vivres, des vêtements et d'autres produits de première nécessité pour soulager les souffrances d'adultes et d'enfants à travers le monde. Ces dons humanitaires d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars au cours de la dernière décennie sont accordés sans considération de religion, de race ou de nationalité. Nos secours massifs après le tremblement de terre et le tsunami de 2011 au Japon ont apporté 13 millions de dollars en liquidités et en fournitures de secours. Et en plus de cela, plus de 31 000 bénévoles patronnés par l'Église ont fourni plus de 600 000 heures de service. Notre aide humanitaire aux victimes de l'ouragan Sandy sur la côte est des États-Unis a consisté en vastes dons de ressources diverses et de près de 300 000 heures de service de déblayage des décombres par près de 28 000 membres. Parmi beaucoup d'autres exemples, l'année dernière, nous avons fourni 136 tonnes de vêtements et de chaussures pour les réfugiés du Tchad. Au cours du dernier quart de siècle, nous avons aidé près de 30 millions de personnes dans 179 pays. Oui, les gens qu'on appelle les Mormons savent donner aux pauvres et aux nécessiteux. Dans son dernier enseignement biblique, notre Sauveur a commandé à ses disciples de porter ses enseignements à chaque nation et à chaque créature. Depuis le début du rétablissement, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours s'efforce de suivre cet enseignement. Même quand nous n'étions qu'une pauvre petite église en difficulté, qui ne comptait que quelques milliers de membres, nos premiers dirigeants ont envoyé des missionnaires de l'autre côté de l'océan, d'est en ouest. En tant que peuple, nous avons continué à enseigner le message chrétien au point qu'à présent, notre programme missionnaire sans pareil compte plus de 60 000 missionnaires à plein temps et des milliers d'autres qui servent à plein temps. À mi-temps, nous avons des missionnaires dans plus de 150 pays et territoires. À la fin de son grand sermon sur la montagne, Jésus a enseigné « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Le but de cet enseignement et notre but lorsque nous suivons notre Sauveur est d'aller vers notre Père que notre Sauveur appelle « Mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu ». Dans la révélation moderne qui est propre à l'Évangile rétabli, nous apprenons que le commandement de rechercher la perfection fait partie du plan de Dieu, le Père, pour le salut de ses enfants. En vertu de ce plan, nous sommes tous héritiers de nos parents divins. L'apôtre Paul a enseigné « Nous sommes enfants de Dieu ». Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Cela signifie, comme on nous le dit dans le Nouveau Testament, que nous sommes héritiers de la vie éternelle et que si nous allons au Père, nous hériterons toutes ces choses. Tout ce qu'il a, un concept que notre esprit mortel peut difficilement saisir. Mais nous pouvons au moins comprendre qu'il n'est possible d'atteindre cette destinée ultime dans l'éternité que si nous suivons notre Sauveur, Jésus-Christ, qui a enseigné que nul ne vient au Père que par moi. Nous nous efforçons de le suivre et de devenir davantage comme lui ici et dans l'au-delà. C'est donc ce que nous chantons dans le dernier couplet de notre cantique « Viens et suis-moi ». Mais suffit-il de le suivre ici, sur la terre où il vécut jadis? Non. Il est clair pour nous qu'il faut suivre ses pas aussi là-haut. Nous recevrons puissance et bonheur, gloire et royaume, paix et grandeur. Si nous venons tous avec foi à son appel, viens et suis-moi. Je témoigne de notre Sauveur Jésus-Christ, dont nous cherchons à suivre l'exemple et les enseignements. Il nous invite, chacun de nous qui sommes chargés, à venir à lui pour recevoir son enseignement, pour le suivre et ainsi trouver du repos pour notre âme. Je témoigne de la vérité de son message et de la mission et de l'autorité divine de son Église rétablie. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Mes frères et sœurs, je suis reconnaissant de pouvoir vous parler cet après-midi dans le cadre de cette conférence générale inspirante. En abordant un sujet qui, à mes yeux, est des plus sacrés, je souhaite tout d'abord rendre hommage avec gratitude à la dévotion de tant de chrétiens à travers le temps, y compris mes ancêtres protestants, français, catholiques et irlandais. À cause de leur foi et de leur croyance en Dieu, beaucoup d'entre eux ont sacrifié leur position sociale, leurs biens et même leur vie pour défendre leur Dieu et leur religion. En tant que saints des derniers jours et en tant que chrétiens, nous avons également une foi grande et profonde en Dieu le Père éternel et en son Fils Jésus-Christ. La dévotion envers Dieu reste toujours quelque chose de sacré et de personnel entre chacun de nous et le Créateur. Notre quête de la vie éternelle n'est rien d'autre qu'une quête pour comprendre qui est Dieu et retourner vivre avec lui. Dans sa prière, le Sauveur a dit au Père, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Même à la lumière de cette déclaration de notre Sauveur lui-même, la conception la plus répandue de la nature de Dieu le Père et le Fils pendant de nombreux siècles et parmi une grande partie du genre humain est clairement contraire aux enseignements des Saintes Écritures. Nous déclarons respectueusement que la compréhension correcte du Père et du Fils est au cœur de l'Évangile de Jésus-Christ et de son pouvoir salvateur. L'importance de ce principe tout à fait fondamental de l'Église de Jésus-Christ est confirmée par la première vision de Joseph Smith, le prophète, en 1820. Il a écrit « Je vis deux personnages dont l'éclat et la gloire défient toute description et qui se tenaient au-dessus de moi dans les airs. L'un d'eux me parla, m'appelant par mon nom, et dit, en me montrant l'autre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoute-le. » Cette expérience du jeune Joseph, suivie de beaucoup d'autres visions et révélations, montre que Dieu existe réellement. Le Père et le Fils, Jésus-Christ, sont deux personnages distincts. L'homme est créé à l'image de Dieu. Notre Père céleste est littéralement le Père de Jésus-Christ. Dieu continue de se révéler à l'homme. Dieu est toujours proche et s'intéresse toujours à nous. Et il répond à nos prières. Même si de telles apparitions de Dieu, le Père et son Fils, sont rares dans les écrits saints, ce qui est remarquable dans la première vision, c'est qu'elle s'accorde si bien avec d'autres événements rapportés dans les Saintes Écritures. Dans le Nouveau Testament, par exemple, nous lisons le dernier témoignage qu'Étienne rend lors de son martyre. Il a dit « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Au cours de sa grande vision sur l'île de Patmos, l'apôtre Jean voit le Seigneur Dieu Tout-Puissant ainsi que l'agneau de Dieu qui nous a rachetés par son sang. Dans le livre de Mormon, la doctrine du Père et du Fils est un témoignage majestueux aux côtés de la Bible. Le livre de Mormon rapporte la visite du Sauveur chez les Néphites, visite au cours de laquelle la voix du Père, en présence de près de 2500 Néphites, présente le Christ ressuscité. Voici mon Fils bien-aimé, en qui je me complais, en qui j'ai glorifié mon nom. Écoutez-le. Dans les quatre évangiles, le Christ lui-même mentionne 160 fois son Père céleste, tandis que pendant son bref ministère de 3 jours parmi les Néphites, comme le rapporte le livre de Mormon, il mentionne son Père 122 fois. Par exemple, dans Matthieu, Jésus dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Dans Jean, il témoigne « Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. » Et dans Luc, il s'exclame « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Chaque fois que notre Seigneur mentionne son Père céleste, il le fait avec la plus grande révérence et la plus grande soumission. En disant cela, j'espère qu'il n'y aura pas de malentendu. Jésus-Christ est le grand Jéhovah, le Dieu d'Israël, le Messie promis, et grâce à son expiation infinie, il est notre Sauveur et le Rédempteur du monde. L'apôtre Paul a déclaré à son sujet, « Ensuite viendra la fin, quand le Christ remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, et après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. » La veille de son expiation, le Sauveur fit sa grande prière sacerdotale à son Père. Il dit dans sa prière, « Ce n'est pas pour eux, autrement dit ses apôtres, seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Le Père et le Fils sont deux personnages distincts, mais parfaitement unis en pouvoir et en but. Cette unité ne leur est pas réservée. Au contraire, ils désirent cette même unité chez tous ceux qui, avec dévotion, suivront leurs commandements et y obéiront. Comment celui qui recherche Dieu avec ferveur est-il capable de faire la connaissance du Père et du Fils? Notre Sauveur a promis, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, vous enseignera toutes choses. » Dans le livre de Mormon, Néphi parle de la doctrine du Christ, déclarant que le Saint-Esprit témoigne du Père et du Fils. Il est vrai que toute personne peut ressentir occasionnellement le pouvoir ou l'influence du Saint-Esprit selon la volonté du Seigneur, indépendamment de son appartenance religieuse. Mais on obtient la pleine mesure ou le don du Saint-Esprit qu'après avoir reçu le cœur brisé et l'esprit contrit, les ordonnances du baptême et du don du Saint-Esprit par l'imposition des mains. Ces ordonnances sacrées et d'autres ne peuvent être accomplies que sous la direction et avec le pouvoir de la prêtrise de Dieu. À cet égard, on nous enseigne « Cette plus grande prêtrise administre l'Évangile et détient la clé des mystères du royaume, oui, la clé de la connaissance de Dieu. C'est pourquoi le pouvoir de la divinité se manifeste dans ses ordonnances. Vu sous sa vraie lumière, la doctrine du Père et du Fils est la doctrine de la famille éternelle. Chaque être humain a vécu auparavant en tant qu'enfant d'esprit de parents célestes, le Christ étant le premier-né du Père dans cette famille céleste. Il en est de même pour nous tous. Nous sommes tous enfants de notre Père céleste. Ezra Taft Benson a dit, avec une vision prophétique, « Rien ne sera plus surprenant quand nous traverserons le voile que de nous rendre compte combien nous connaissons le Père céleste et combien son visage nous est familier. » J'ai appris qu'il n'est pas possible d'exprimer dans le langage de l'homme les choses qui ne sont connues que par le Saint-Esprit et le pouvoir de Dieu. C'est dans cet esprit que je rends solennellement témoignage de la réalité, de la proximité et de la bonté de notre Père céleste et de son Saint-Fils, Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Thank you, brethren. The choir and
congregation. Merci, frères. Le chœur et l'assemblée vont maintenant se lever et chanter « Vivons ce bonheur ». Après ce cantique, nous entendrons Enrique R. Falabella, Eric W. Kopischke et Bruce D. Porter, des 70. Ils seront suivis de D. Todd Christofferson, du Collège des 12 apôtres.
This is the 183rd annual...
Vous assistez à la 183e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
Certains parents justifient leurs erreurs au foyer en déclarant qu'elles résultent de l'absence d'école pour les parents. En réalité, cette école existe et elle peut être la meilleure de toutes. Elle s'appelle le foyer. En voyageant dans le passé sur les ailes de ma mémoire, je me rappelle des moments précieux que j'ai passés avec ma femme. Le fait de vous raconter mes souvenirs peut vous faire songer à vos propres expériences, les bonnes comme les mauvaises. Toutes nous apprennent quelque chose. Premièrement, le temple est l'endroit. À mon retour de mission, j'ai rencontré une belle jeune femme dont les longs cheveux noirs lui arrivaient jusqu'à la taille. Ses grands yeux avaient la couleur du miel et elle avait un sourire contagieux. J'ai été ébloui dès que je l'ai aperçue. Ma femme s'était fixé le but de se marier au temple, bien qu'à l'époque, il faille faire un voyage de plus de 6400 kilomètres pour se rendre au temple le plus proche. La cérémonie de notre mariage civil fut empreinte de bonheur et de tristesse, car nous étions mariés avec une date d'expiration. L'officier prononça les mots « Je vous déclare maintenant mari et femme », mais tout de suite après, il dit « Jusqu'à ce que la mort vous sépare ». Alors, au prix de sacrifices, nous nous sommes mis au travail pour épargner suffisamment d'argent pour acheter un aller simple jusqu'au temple de Mesa en Arizona. Au temple, tandis que nous étions agenouillés à l'autel, un serviteur autorisé a prononcé les mots auxquels j'aspirais. Et il nous a déclaré mari et femme pour le temps et pour toute l'éternité. Un ami nous a emmenés à l'école du dimanche. Pendant la réunion, il s'est levé et il nous a présentés à la classe. À la fin de la réunion, un frère s'est approché de moi, m'a serré la main et y a laissé un billet de 20 dollars. Peu après, un autre frère s'est aussi approché de moi et à ma surprise, il m'a laissé également un billet dans la main. J'ai cherché rapidement du regard ma femme qui était de l'autre côté de la salle et j'ai crié « Blinky, serre la main de tout le monde !» Nous avons bientôt réuni assez d'argent pour entrer au Guatemala. Il y a dans la gloire céleste trois cieux ou degrés. Pour obtenir le plus haut, l'homme doit entrer dans cet ordre de la prêtrise. Deuxièmement, une des devises de ma femme est « Il faut être deux pour se disputer ». Et je ne serai jamais l'autre. Le Seigneur a décrit clairement les vertus qui doivent guider nos relations avec les autres. Il s'agit de la persuasion, de la longanimité, de la gentillesse, de la douceur et de l'amour sincère. Les sévices physiques au sein de la famille sont une pratique qui disparaît peu à peu de certaines sociétés et nous nous en réjouissons. Cependant, il y a encore beaucoup de chemin à faire avant d'éliminer les sévices émotionnels. Le tort causé par cette forme de sévice nous reste en mémoire. Cela blesse notre personnalité, cela sème la haine en notre cœur, cela détruit notre estime de nous-mêmes et nous remplit de crainte. Participer à la cérémonie du mariage céleste n'est pas suffisant. Nous devons également mener une vie céleste. Troisièmement, un enfant qui chante est un enfant heureux. C'est une autre devise que ma femme cite fréquemment. Le Sauveur comprenait l'importance de la musique sacrée. Les Écritures relatent, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Et par intermédiaire de Joseph, le prophète, il a dit « Car mon âme met ses délices dans le chant du cœur. Oui, le chant des justes est une prière pour moi, et il sera exaucé par une bénédiction sur leur tête. Comme il est touchant d'écouter le chant d'un petit enfant à qui ses parents ont appris à chanter « Je suis enfant de Dieu ». Quatrièmement, « J'ai besoin que tu me serres dans tes bras ». Les mots « je t'aime », « merci beaucoup » et « pardonne-moi » sont comme un baume pour l'âme. Ils transforment les larmes en joie, ils apportent du réconfort à l'âme accablée et confirment les sentiments tendres que nous éprouvons. Je me souviens de l'époque où nous envoyions des lettres par la poste ou ramassions quelques pièces pour téléphoner à nos proches d'une cabine téléphonique ou dessinions et écrivions des poèmes d'amour sur du papier ordinaire. Aujourd'hui, tout cela semble appartenir à un musée. La technologie de notre époque nous permet de réaliser des merveilles. Comme il est facile d'envoyer des SMS d'amour et de gratitude. Les jeunes le font tout le temps. Je me demande si ces pratiques et d'autres aussi belles continuent une fois que nous avons fondé notre foyer. Un des messages textes que ma femme m'a envoyé récemment dit « Une étreinte comme le ciel, un baiser comme le ciel et une soirée comme la lune. Bonne journée, je t'aime. » Je ne peux m'empêcher de me sentir au ciel quand je reçois un message comme celui-là. Notre Père Céleste est l'exemple parfait de la manière d'exprimer son amour. Lorsqu'il a présenté son Fils, il a utilisé les mots « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je me complais ». Cinquièmement, « J'aime le livre de Mormon et mon Sauveur Jésus-Christ ». Je suis très touché lorsque je vois ma femme lire le livre de Mormon tous les jours. Quand elle le fait, je peux ressentir son témoignage simplement en regardant la joie qui se reflète sur son visage tandis qu'elle lit les passages qui témoignent de la mission du Sauveur. Comme les paroles de notre Sauveur sont sages, sont des Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Inspiré par cela, j'ai dit à ma petite fille Raquel, qui venait d'apprendre récemment à lire, « Que dirais-tu de te fixer pour objectif de lire le livre de Mormon ?» Elle m'a répondu, « Mais grand-père, c'est difficile, c'est un gros livre. » Alors je lui ai demandé de me lire une page, j'ai pris un chronomètre et je le chronométrai. J'ai dit, « Il ne t'a fallu que 3 minutes. » Et la version en espagnol du livre de Mormon a 642 pages. Alors, il te faudra 1926 minutes. Cela aurait pu l'effrayer encore plus. Alors, j'ai divisé ce nombre par 60 minutes et je lui ai dit qu'il ne faudrait que 32 heures pour le lire, moins d'un jour et demi. Alors elle m'a dit, « C'est si facile, grand-père. » Finalement, Raquel, son frère Esteban et nos autres petits-enfants ont mis plus de temps parce qu'il faut lire ce livre dans un esprit de prière et de méditation. Avec le temps, et si nous apprenons à faire nos délices des Écritures, nous nous exclamerons avec le psalmiste, « Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. » Sixièmement, il n'est pas suffisant de connaître les Écritures, nous devons les appliquer. Je me souviens que quand je suis rentré de mission, ayant étudié diligemment les Écritures, je pensais tout savoir. Pendant nos fiançailles, Blanqui et moi étudions les Écritures ensemble. Je me servais de mes notes et de mes références pour la faire profiter de ma connaissance de l'Évangile. Après notre mariage, j'ai eu une sérieuse prise de conscience quand elle m'a donné une grande leçon. J'ai peut-être essayé de lui enseigner l'Évangile, mais elle m'a appris à le vivre. Quand il a terminé le sermon sur la montagne, le Sauveur a donné ce conseil sage. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Les personnes qui vivent en accord avec les principes célestes contenus dans les Écritures apportent du réconfort aux gens qui souffrent. Elles procurent de la joie à ceux qui sont déprimés, une direction à ceux qui sont perdus, de la paix à ceux qui sont dans la détresse, et elles sont un guide sûr pour ceux qui recherchent la vérité. En résumé, le temple est l'endroit de « il faut être deux pour se disputer » et « je ne serai jamais l'un de ceux-là ». Troisièmement, un enfant qui chante est un enfant heureux. Quatrièmement, j'ai besoin que tu me serres dans les bras. Cinquièmement, j'aime le livre de Mormon et mon sauveur Jésus-Christ. Six, il n'est pas suffisant de connaître les Écritures, il faut les appliquer. Ces leçons et de nombreux autres s'apprennent au foyer, l'endroit qui peut devenir un coin du ciel sur la terre. Je témoigne que l'évangile de Jésus-Christ et le plan de notre Père Céleste nous donnent une direction sûre dans cette vie et la promesse de la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, amen. Je me souviens que quand j'étais enfant, mon père m'emmenait parfois travailler à des projets. Nous avions un petit jardin à quelques kilomètres de là où nous habitions, et chaque saison, il y avait toujours beaucoup à faire pour préparer le jardin. Nous travaillions sur la gloriette, où nous fabriquions ou réparions des clôtures. Dans mon souvenir, ce travail se passait toujours dans un froid glacial, sous une forte neige ou une pluie battante. Mais j'aimais ça. Mon père m'enseignait à faire les choses avec patience et acceptation. Un jour, il m'a demandé de resserrer une vis et m'a averti. « N'oublie pas, si tu serres trop la vis, elle va casser. » Fièrement, j'ai voulu lui montrer ce que je pouvais faire. J'ai serré de toutes mes forces et bien sûr, j'ai cassé la vis. Il a plaisanté et nous avons recommencé. Même quand je gaffais, je ressentais toujours son amour et sa confiance en moi. Il est décédé il y a plus de 10 ans, mais j'entends toujours sa voix. Je ressens son amour. Je me réjouis de ses encouragements et je me sens accepté de lui. Le sentiment d'être accepté par quelqu'un que nous aimons est un besoin humain fondamental. Être accepté par de bonnes personnes nous motive. Cela accroît le sentiment de notre valeur personnelle et notre confiance en nous. Les gens qui ne trouvent pas d'acceptation d'une source désirable la recherchent souvent ailleurs. Ils peuvent se tourner vers des gens qui ne s'intéressent pas à leur bien-être. Ils peuvent s'attacher à de faux amis et faire des choses douteuses pour recevoir la reconnaissance qu'ils recherchent. Ils peuvent rechercher l'acceptation en portant une marque de vêtement particulière pour se donner un sentiment d'appartenance ou de prestige. Pour certains, s'efforcer de jouer un rôle ou de parvenir à un poste important peut aussi être un moyen de rechercher l'acceptation. Ils peuvent définir leur valeur par le poste qu'ils détiennent ou le statut social qu'ils obtiennent. Même dans l'Église, nous ne sommes pas toujours à l'abri de cette façon de penser. Quand nous cherchons à être acceptés par les mauvaises personnes ou pour de mauvaises raisons, nous empruntons un sentier dangereux qui risque de nous égarer et même de nous mener à notre destruction. Au lieu de nous sentir appréciés et confiants, nous nous sentirons finalement abandonnés et inférieurs. Alma a conseillé à son fils et l'amant, veille à regarder vers Dieu et à vivre. La source ultime d'habilitation et d'acceptation durable, c'est notre Père Céleste et son Fils, Jésus-Christ. Ils nous connaissent, ils nous aiment. Ils ne nous acceptent pas d'après notre titre ou notre position. Ils ne regardent pas notre statut social. Ils regardent dans notre cœur. Ils nous acceptent pour qui nous sommes et pour ce que nous nous efforçons de devenir. C'est d'eux que nous devons chercher à être acceptés. Cela nous édifiera et nous encouragera toujours. Je vais vous proposer un processus tout simple que vous pouvez appliquer et qui peut aider chacun de nous à trouver l'acceptation suprême. Ce processus a été donné par le Seigneur par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète. Tous ceux qui savent que leur cœur est honnête et brisé et que leur esprit est contrit et qui sont disposés à observer leurs alliances par le sacrifice Oui, tous les sacrifices que moi, le Seigneur, je commanderai, ceux-là sont acceptés par moi. Ce processus comprend trois étapes simples. Premièrement, savoir que notre cœur est honnête et brisé. Deuxièmement, savoir que notre esprit est contrit. Et troisièmement, être disposé à respecter nos alliances par le sacrifice, comme cela est commandé par le Seigneur. Premièrement, nous avons besoin de savoir que notre cœur est honnête et brisé. Comment le savons-nous? Nous commençons en nous livrant à une introspection sincère. Le cœur est le centre de nos sentiments. En regardant dans notre cœur, nous nous examinons. Ce que personne autour de nous ne connaît, nous, nous le connaissons à coup sûr. Nous connaissons nos motivations et nos désirs. Quand nous nous livrons à une réflexion sincère et honnête, nous ne cherchons pas de justification et nous ne nous aveuglons pas. Il y a aussi un moyen de juger si notre cœur est brisé. Un cœur brisé est un cœur doux, ouvert et réceptif. Quand j'entends le Sauveur dire « Voici, je me tiens à la porte et je frappe », je l'entends frapper à la porte de mon cœur. Si je lui ouvre cette porte, je deviens plus réceptif aux invitations de l'Esprit et j'accepte davantage la volonté de Dieu. Nous devons nous demander sincèrement et dans la prière à quel point notre cœur est honnête et brisé. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit nous instruira. Nous recevrons une confirmation chaleureuse ou une correction douce nous invitant à agir. Deuxièmement, nous devons savoir que notre esprit est contrit. Le mot « contrit » dans le dictionnaire d'Oxford est défini comme un sentiment ou une expression de remords à la prise de conscience que l'on a mal agi. Si nous avons l'esprit contrit, nous reconnaissons nos péchés et nos défauts. Nous sommes réceptifs concernant toute chose relative à la justice. Nous ressentons de la tristesse selon Dieu et voulons nous repentir. Un esprit contrit est disposé à écouter les persuasions de l'Esprit Saint. Si nous avons l'esprit contrit, cela se manifeste par notre disposition et notre détermination à agir. Nous sommes disposés à nous humilier devant Dieu, à nous repentir, à apprendre et à changer. Nous sommes disposés à dire dans nos prières « Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne ». La troisième étape pour être accepté par le Seigneur est une décision consciente de respecter nos alliances par le sacrifice. Oui, tous les sacrifices que moi, le Seigneur, je commanderai. Trop souvent, nous pensons que le mot « sacrifice » désigne quelque chose de grand ou de difficile à faire. Dans certains cas, cela peut être vrai. Mais le plus souvent, cela se rapporte à la vie quotidienne d'un vrai disciple du Christ. Une façon de respecter nos alliances par le sacrifice est de prendre dignement la Sainte Cène chaque semaine. Nous nous préparons consciemment pour l'ordonnance sacrée. Nous renouvelons et confirmons nos promesses sacrées au Seigneur. De cette façon, nous sentons qu'il nous accepte et recevons son assurance que nos efforts sont reconnus et que nos péchés sont pardonnés par l'expiation de Jésus-Christ. Pendant cette ordonnance, le Seigneur nous promet que si nous sommes disposés à prendre sur nous le nom de son Fils, à toujours nous souvenir de lui et à garder ses commandements, nous aurons toujours son Esprit avec nous. Quand nous avons la compagnie constante du Saint-Esprit, nous avons le meilleur des signes que nous sommes acceptés de Dieu. Il y a d'autres manières de respecter nos alliances par le sacrifice. Aussi simple que d'accepter un appel dans l'Église et de le remplir fidèlement, ou suivre l'invitation de Thomas Monson, notre prophète, de tendre la main à ceux qui se trouvent sur le bas-côté de la route et ont besoin que l'on aille spirituellement à leur secours. Nous recevons nos alliances par le sacrifice en rendant des services discrets dans notre quartier ou notre collectivité, ou en cherchant les noms de nos ancêtres et en accomplissant l'œuvre du Temple pour eux. Nous respectons nos alliances par le sacrifice quand nous nous efforçons simplement d'être justes, ouverts et à l'écoute des chuchotements de l'Esprit dans la vie quotidienne. Parfois, respecter nos alliances ne signifie rien de plus que de tenir bon et rester fidèle quand les tempêtes de la vie font rage autour de nous. Après avoir expliqué comment nous pouvons être acceptés par lui, le Seigneur utilise une image merveilleuse qui montre comment nous pouvons, nous et notre famille, obtenir des bénédictions en nous efforçant d'être acceptés de lui. Il a dit, « Car moi, le Seigneur, je ferai qu'il produise comme un arbre très fécond qui est planté dans une terre fertile, près d'un cours d'eau pur, qui donne beaucoup de fruits précieux. » Une fois que nous serons en accord avec l'Esprit du Seigneur et sentirons qu'il nous accepte, nous serons bénis au-delà de notre compréhension et nous recevrons les nombreux fruits de la justice. Nous ferons partie des gens à qui il a dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Maître. » En nous efforçant d'être acceptés du Seigneur et en l'étant, nous parviendrons à la connaissance que nous sommes choisis et bénis par lui. Nous acquérerons l'assurance accrue qu'il nous guidera et nous dirigera pour notre bien. Ses tendres miséricordes deviendront évidentes dans notre cœur, dans notre vie et dans notre famille. De tout mon cœur, je vous invite à vous efforcer d'être acceptés du Seigneur et jouir des bénédictions qu'il a promises. En suivant le processus tout simple que le Seigneur nous a donné, nous acquérerons la connaissance que nous sommes acceptés de lui, quelle que soit notre situation, notre statut social ou nos limites de mortels. Son acceptation aimante nous motivera, accroîtra notre foi et nous aidera à faire face à tout ce que nous devrons affronter. En dépit de nos épreuves, nous réussirons, nous prospérerons et nous serons en paix. Nous ferons partie des gens à qui le Seigneur a dit, « Ne craignez pas, petits enfants, car vous êtes à moi, et j'ai vaincu le monde, et vous êtes de ceux que le Père m'a donné, et aucun de ceux que mon Père m'a donné ne sera perdu. » Au nom de Jésus-Christ, Amen.
On a Thursday evening in Jerusalem,
un jeudi soir à Jérusalem, Jésus et ses disciples se réunirent dans une chambre haute pour célébrer la Pâque. Les hommes qui se joignirent à lui ne savaient pas que ce repas serait un jour appelé la dernière scène. S'ils l'avaient su, et s'ils en avaient connu la signification, ils auraient pleuré. Cependant, leur maître comprenait parfaitement que le supplice de Gethsémané et du Golgotha allait bientôt commencer. Les heures les plus sombres de l'histoire du monde étaient imminentes. Néanmoins, Jésus leur dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Nous vivons aujourd'hui une époque d'agitation et d'incertitude. Une période marquée par des jours de méchanceté et de vengeance. Comme le Seigneur le prophétisa à Hénoch, les tribulations et les temps difficiles nous attendent peut-être. Pourtant, nous aussi avons des raisons de prendre courage et de nous réjouir. Nous vivons dans la dernière dispensation dans laquelle Dieu a rétabli son Église et son royaume sur la terre en vue du retour de son Fils. Le président Packer a parlé un jour de ses petits-enfants et du monde de plus en plus tourmenté dans lequel ils vivent. Il a dit, « Il se passera beaucoup de choses durant leur vie. Certaines mettront leur courage à l'épreuve et feront grandir leur foi. Mais s'ils prient pour être aidés et guidés, ils recevront la force de vaincre l'adversité. » Il a ajouté plus loin, « Les valeurs morales dont dépend toute la civilisation s'effondrent à un rythme qui s'accélère sans cesse. Malgré cela, je n'ai pas peur de l'avenir. » Frères et sœurs, nous ne devons pas craindre l'avenir, ni laisser notre espérance et notre courage s'affaiblir, car Dieu est avec nous. Parmi les premières recommandations que Jésus a données à ses disciples, nouvellement appelés, on trouve la brève instruction suivante. Ne crains point. Il l'a répété de nombreuses fois durant son ministère. Au sein de notre époque, le Sauveur a dit, Prenez courage et ne craignez pas, car moi, le Seigneur, je suis avec vous et je me tiendrai à vos côtés. Le Seigneur se tiendra aux côtés de son Église et de son peuple, et il les gardera en sécurité jusqu'à sa venue. La paix régnera en Sion et dans ses pieux, car il a proclamé, et que le rassemblement au pays de Sion et dans ses pieux soit pour la défense, le refuge contre la tempête et contre la colère lorsqu'elle sera déversée sans mélange sur toute la terre. L'Église représente un rempart pour ses membres. Même si les conditions de la vie dans le monde sont parfois très pénibles, les saints des derniers jours fidèles trouveront refuge dans les pieux de Sion. Le Seigneur a décrété que la pierre détachée de la montagne sans l'aide d'aucune main roulera jusqu'à remplir toute la terre. Aucune puissance humaine ne peut arrêter sa course, parce que Dieu est l'auteur de cette œuvre et que Jésus-Christ est la pierre angulaire. Néphi a eu la vision que, dans les derniers jours, le pouvoir de l'agneau de Dieu descendrait sur le peuple de l'Alliance du Seigneur, et ils seraient armés de justice et du pouvoir de Dieu dans une grande gloire. Nous pouvons tous, avec notre famille, être armés du pouvoir de Dieu comme défense si nous restons fidèles à l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours et laissons l'Esprit nous guider. Des épreuves peuvent survenir, et il se peut que nous ne comprenions pas tout ce qui nous arrive ou ce qui se passe autour de nous. Mais si nous mettons humblement et sereinement notre confiance dans le Seigneur, il nous fortifiera et nous guidera dans toutes les difficultés. Si notre seul désir est de lui être agréable, nous aurons la bénédiction de ressentir une profonde paix intérieure. Dans les premiers temps du rétablissement, les membres de l'Église ont affronté de dures épreuves. Parlant de cette époque, le président Brigham Young a dit « Autant que je m'en souvienne, lorsque j'étais entouré par les émeutiers, menacé de toutes parts de mort et de destruction, je me sentais aussi joyeux et d'aussi bonne humeur que maintenant. Les perspectives n'étaient sans doute pas brillantes et peut-être même très sombres, mais je n'ai jamais connu de moment dans cet évangile où je n'ai pas su que le résultat serait profitable à cause de la vérité. Paul, mon collègue missionnaire, était toujours de bonne humeur. Jeune père, il s'est avéré qu'il avait une sclérose en plaques. Pourtant, malgré l'adversité qui a suivi, il a continué de servir les autres avec joie et bonne humeur. Un jour, il est entré dans mon bureau en fauteuil roulant et a déclaré « La vie commence avec un fauteuil roulant motorisé. Je me souviendrai toujours de lui. Quelques années avant sa mort, levant bien haut la flamme olympique, tandis qu'il avançait dans son fauteuil roulant, acclamé par des centaines de personnes. Comme cette flamme éternelle, la foi de Paul n'a jamais faibli avec le temps. Quand j'étais étudiant à l'université Brigham Young, j'habitais dans une maison avec plusieurs jeunes gens. Mon colocataire, Bruce, était la personne la plus optimiste que j'ai jamais rencontrée. On ne l'a jamais entendu dire quoi que ce soit de négatif au sujet d'une personne ou d'une situation. Et il était impossible de ne pas se sentir encouragé en sa présence. Son courage émanait de sa confiance constante dans le Sauveur et son Évangile. Un jour froid d'hiver, Tom, un autre de mes amis, traversait le campus. Il était seulement 7 heures du matin et le campus était désert et sombre. La neige tombait à gros flocons et un vent froid soufflait. Quel fichu temps, se disait-il. Un peu plus loin, dans l'obscurité et la neige, il entendit quelqu'un chanter. Comme on pouvait s'y attendre, c'était notre ami Bruce, l'éternel optimiste, qui arrivait sous la tempête de neige. les bras tendus vers le ciel. Il chantait un morceau de la comédie musicale de Broadway, Oklahoma. Oh, quelle belle matinée! Oh, quelle belle journée! Je me sens bien. Tout me sourit. Au cours des années qui ont suivi, cette voix claire, dans une sombre tempête, est devenue pour moi le symbole de ce que signifie la foi et l'espérance. Même dans un monde de plus en plus sombre, nous, saints des derniers jours, nous pouvons chanter avec joie, sachant que les pouvoirs des cieux sont avec le peuple et l'Église de Dieu. Nous pouvons nous réjouir de savoir qu'une belle matinée nous attend, l'aube du millénium, lorsque le Fils de Dieu se lèvera à l'Orient et régnera sur la terre. Je pense aussi à deux autres belles matinées de l'histoire du monde. Au printemps 1820, au matin d'une belle et claire journée à Palmyra, dans l'État de New York, un jeune garçon nommé Joseph Smith entra dans un bosquet et s'agenouilla pour prier. La réponse à cette prière, l'apparition du Père et du Fils, annonça la dispensation de la plénitude des temps et le rétablissement de l'Église de Jésus-Christ sur la terre. Il y eut une autre belle matinée, il y a près de 2000 ans, juste à l'extérieur de la vieille ville fortifiée de Jérusalem. Le soleil brillait sans doute d'un éclat exceptionnel en ce matin de Pâques. Un petit groupe de femmes s'était rendu auprès d'un tombeau dans un jardin, espérant oindre le corps de leur Seigneur crucifié. Elles rencontrèrent deux anges qui leur déclarèrent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Je témoigne du triomphe de Jésus-Christ sur le péché et la mort. Je témoigne du plan miséricordieux de notre Père éternel et de son amour éternel. Puissions-nous, en nous éveillant chaque matin, lever les yeux vers le ciel avec foi et dire « Oh, quelle belle matinée !» C'est là ma prière, au nom de Jésus-Christ. Amen.
In colonial times,
à l'époque coloniale, en Amérique, la main-d'œuvre était très recherchée. Au cours du XVIIIe siècle et au début du XIXe, des travailleurs émigrants potentiels étaient recrutés en Grande-Bretagne, en Allemagne, et dans d'autres pays européens. Mais beaucoup d'entre eux, disposés à partir, ne pouvaient pas se permettre de payer le coût du voyage. Il n'était pas rare qu'ils voyagent sous contrat, s'engageant à travailler sans rémunération après leur arrivée pendant un certain temps pour payer leur passage. D'autres partaient avec la promesse que les membres de leur famille, déjà en Amérique, paieraient leurs billets à leur arrivée, mais si cela ne se produisait pas, les nouveaux venus étaient obligés de le payer en travaillant sans rémunération. Le terme utilisé pour décrire ces immigrants sous contrat était « rédemptionneur ». Ils devaient rédimer le coût de leur passage, dans un sens, acheter leur liberté par leur travail. « Rédempteur » est l'un des titres les plus significatifs qui décrivent Jésus-Christ. Comme l'indique mon bref récit des rédemptionneurs immigrants, le mot « rédimer » signifie s'acquitter d'une obligation ou d'une dette. « Rédimer » signifie aussi « racheter » ou « libérer », par exemple en payant une rançon. Si quelqu'un commet une faute, puis la corrige ou fait « amende honorable », nous disons qu'il s'est racheté. Chacune de ces significations suggère différents aspects de la grande rédemption que Jésus-Christ a accomplie par l'intermédiaire de son expiation, qui inclut, selon le dictionnaire, la notion de « délivrer du péché et de ses pénalités au moyen d'un sacrifice fait pour le pécheur ». La rédemption du Sauveur comporte deux parties. Premièrement, elle expie la transgression d'Adam et la chute de l'homme qui l'a suivi, en surmontant ce qui pourrait être appelé les effets directs de la chute, la mort physique et la mort spirituelle. La mort physique est bien comprise. La mort spirituelle consiste en la séparation de l'homme d'avec Dieu. Selon les paroles de Paul, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Cette rédemption de la mort physique et spirituelle est à la fois universelle et sans condition. Le deuxième aspect de l'expiation du Sauveur est la rédemption de ce que l'on pourrait appeler les conséquences indirectes de la chute, nos propres péchés par opposition à la transgression d'Adam. À cause de la chute, nous naissons dans un monde mortel où le péché, c'est-à-dire la désobéissance à la loi instituée par Dieu, est omniprésent. Parlons de nous tous, le Seigneur dit. Lorsqu'ils commencent à grandir, le péché est conçu dans leur cœur, et ils goûtent à la mer afin d'apprendre à apprécier le bien. Et il leur est donné de discerner le bien du mal. C'est pourquoi ils peuvent agir par eux-mêmes. Parce que nous sommes responsables et que nous faisons des choix, la rédemption de nos propres péchés est conditionnelle. Elle dépend de la confession et de l'abandon du péché et de l'adoption d'une vie pieuse, ou en d'autres termes, elle dépend du repentir. Le Seigneur commande. C'est pourquoi, enseigne-le à tes enfants, que tous les hommes de partout doivent se repentir, sinon ils ne pourront en aucune façon hériter le royaume de Dieu. Car rien d'impur ne peut y demeurer ou demeurer en sa présence. La souffrance du Sauveur à Gethsémané et son agonie sur la croix nous rachètent du péché en satisfaisant aux exigences que la justice nous impose. Il accorde la miséricorde et pardonne aux personnes qui se repentent. L'expiation satisfait aussi la dette que la justice nous doit en nous guérissant et en compensant toutes les souffrances que nous subissons alors que nous sommes innocents. Car voici, il subit les souffrances de tous les hommes, oui, les souffrances de tous les êtres vivants, tant des hommes que des femmes et des enfants qui appartiennent à la famille d'Adam. Quand nous suivons le Christ, nous cherchons à participer à son œuvre rédemptrice et à la promouvoir. Le plus grand service que nous puissions rendre aux autres dans cette vie, en commençant par les personnes de notre propre famille, est de les amener au Christ par la foi et le repentir, afin qu'ils puissent bénéficier de sa rédemption, la paix et la joie maintenant, et la vie éternelle dans le monde à venir. L'œuvre de nos missionnaires est une expression magnifique de l'amour rédempteur du Seigneur. Parce qu'ils sont ses messagers autorisés, ils offrent les bénédictions incomparables de la foi en Jésus-Christ, du repentir, du baptême et du don du Saint-Esprit, ouvrant la voie à la renaissance spirituelle et à la rédemption. Nous pouvons aussi aider le Seigneur à racheter les personnes décédées. Quand ils quittent la vie mortelle, les anciens fidèles de notre dispensation continuent leur labeur de prédication de l'Évangile de repentir et de rédemption par le sacrifice du Fils unique de Dieu, parmi ceux qui sont dans les ténèbres et dans la servitude du péché, dans le vaste monde des esprits des morts. Grâce aux rites par procuration que nous accomplissons pour elles dans les temples de Dieu, même les personnes qui sont mortes dans la servitude du péché peuvent être libérées. Bien que les aspects les plus importants de la rédemption aient trait au repentir et au pardon, il y a aussi un aspect temporel très important. On dit que Jésus allait partout faisant du bien, ce qui inclut guérir les malades et les infirmes, donner à manger aux foules affamées et enseigner la voie par excellence. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Ainsi, nous pouvons, par l'influence du Saint-Esprit, aller partout faisant du bien en suivant le modèle rédempteur du Maître. Ce genre d'œuvre rédemptrice consiste à aider les gens à résoudre leurs problèmes. Cela veut dire devenir l'ami des pauvres et des faibles, soulager la souffrance, redresser les torts, défendre la vérité, affirmer la génération montante et réaliser la sécurité et le bonheur au foyer. Une grande partie de notre œuvre rédemptrice sur la terre consiste à aider les autres à progresser et à réaliser leurs espoirs et leurs aspirations justes. Bien que fictif, un exemple tiré du roman « Les Misérables » de Victor Hugo m'a toujours ému et inspiré. peu après le début de l'histoire, Monseigneur Bienvenu nourrit et héberge pour la nuit le sans-abri Jean Valjean, qui vient d'être libéré après 19 ans de bagne, pour avoir volé une miche de pain, pour nourrir les enfants mourants de faim de sa sœur. Endurci et aigri, Valjean récompense la gentillesse du Monseigneur Bienvenu en volant son argenterie. Peu après, arrêté par des gendarmes soupçonneux, Valjean soutient faussement que l'argenterie lui a été donnée. Quand les gendarmes le ramènent chez l'évêque, celui-ci, à la grande surprise de Valjean, confirme son histoire. Et pour faire bonne mesure, il ajoute « Mais je vous avais donné les chandeliers aussi, qui sont en argent, comme le reste, et dont vous pourrez bien avoir 200 francs. Pourquoi ne les avez-vous pas emportés avec vos couverts ?» L'évêque s'approcha de lui et lui dit à voix basse « N'oubliez pas, n'oubliez jamais que vous m'avez promis d'employer cet argent à devenir un honnête homme. » Jean Valjean, qui n'avait aucun souvenir d'avoir rien promis, resta interdit. L'évêque continua avec solennité. « Jean Valjean, mon frère, vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. C'est votre âme que je vous achète. Je la retire aux pensées noires et à l'esprit de perdition, et je la donne à Dieu. » En effet, Jean Valjean devint un homme nouveau, un honnête homme, et le bienfaiteur de beaucoup de gens. Toute sa vie, il garda les deux chandeliers d'argent qui lui rappelaient que son âme avait été rachetée pour servir Dieu. Certaines formes de rédemption temporelle sont le résultat d'efforts de coopération. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Sauveur a créé une église. Étant organisé en collège, en auxiliaire et en pieu, en paroisse et en branche, nous pouvons non seulement nous instruire et nous encourager mutuellement dans l'Évangile, mais nous pouvons aussi mobiliser des gens et des ressources pour parer aux exigences de la vie. Les personnes qui agissent seules ou en groupe occasionnel ne peuvent pas toujours fournir une aide suffisante pour faire face à des difficultés plus grandes. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes une collectivité de saints organisée pour contribuer à répondre aux besoins des autres saints et de toutes les autres personnes que nous pouvons atteindre de par le monde. Depuis l'année passée, grâce à nos efforts humanitaires, 890 000 personnes dans 36 pays ont accès à de l'eau potable. 70 000 personnes dans 57 pays ont des fauteuils roulants. 75 000 personnes dans 25 pays bénéficient d'une meilleure vue. Et des gens dans 52 pays ont reçu une aide après des catastrophes naturelles. En collaboration avec d'autres pays, l'Église a contribué à vacciner quelque 18 millions d'enfants et à fournir les produits de première nécessité aux Syriens dans les camps de réfugiés de Turquie, du Liban et de Jordanie. Simultanément, en 2012, les membres de l'Église, dans le besoin, ont reçu des millions de dollars américains en offrandes de jeûne et de l'assistance de l'entraide. Nous vous remercions de votre générosité. Tout cela ne tient pas compte des actes individuels de gentillesse et de soutien, dont de nourriture, de vêtements, d'argent, de soins et un millier d'autres formes de réconfort et de compassion, grâce auxquelles nous pouvons contribuer à l'œuvre de rédemption chrétienne. Quand j'étais enfant, j'ai vu ma mère sauver une femme dans le besoin. Il y a bien des années, quand ses fils étaient jeunes, ma mère a subi une grave opération qui lui a presque été fatale et qui l'a laissée aliter la plupart du temps pendant près d'un an. Pendant cette période, les membres de notre famille et de notre paroisse ont aidé ma mère et notre famille. En plus de cela, la présidente de la société de secours de paroisse, sœur Abraham, a conseillé à mes parents d'employer une femme de notre paroisse qui avait désespérément besoin de travail. En racontant cette histoire, je vais utiliser les noms fictifs de Sarah et Annie pour cette femme et sa fille. Voici le récit de ma mère. Je me souviens comme si c'était hier. J'étais au lit et sœur Abraham a amené Sarah à la porte de ma chambre. J'ai eu un pincement au cœur. La personne que j'avais devant moi était la moins attirante que j'ai jamais rencontrée. Si maigre, famélique, les cheveux en bataille, voûtée, la tête baissée, regardant le sol. Elle portait une vieille blouse bien trop grande pour elle, Elle ne voulait pas lever les yeux, et elle parlait si bas que je ne pouvais l'entendre. Derrière elle était cachée une petite fille d'environ 3 ans. Qu'allais-je donc bien pouvoir faire de cette personne? Quand elles sont sorties de la chambre, j'ai pleuré sans pouvoir m'arrêter. J'avais besoin d'aide, pas de problème supplémentaire. Sœur Abraham resta encore un peu avec elle, et elles eurent au fait de remettre la maison en ordre et de préparer de bons repas. Sœur Abraham me demanda de la prendre à laisser pendant quelques jours et me dit qu'elle avait vraiment eu de grosses difficultés et qu'elle avait besoin d'aide. Le lendemain matin, quand Sarah revint, je réussis finalement à la faire venir jusqu'au lit où je pourrais l'entendre. Elle me demanda ce que je voulais qu'elle fasse. Je le lui dis, puis j'ajoutai, « Mais le plus important, ce sont mes garçons. Passez du temps avec eux. Faites-leur la lecture. Ils sont plus importants que la maison. » Elle était bonne cuisinière, elle tenait la maison propre, la lessive était faite, et elle était bonne avec les garçons. À mesure que les semaines passaient, j'ai appris l'histoire de Sarah. Parce qu'elle avait des problèmes d'audition, elle ne réussissait pas à l'école, et elle finit par abandonner. Très jeune, elle épousa un débauché. Annie naquit et devint la joie de la vie de Sarah. Un soir d'hiver, son mari rentra ivre à la maison, mit de force Sarah et Annie dans la voiture, en tenue de nuit, puis les déposa au bord de la grande route. Elles ne le revirent jamais. Pieds nus et frigorifiés, Sarah et Annie firent plusieurs kilomètres à pied jusque chez sa mère. Celle-ci consentit à les garder, à condition qu'elle fasse toutes les tâches ménagères et la cuisine, et qu'elle s'occupe de son frère et de sa sœur qui étaient au lycée. Nous amenâmes Sarah voir un spécialiste de l'ouïe, et elle reçut un appareil auditif. Nous lui fîmes suivre des cours pour adultes, et elle obtint son diplôme de fin d'études secondaires. Elle alla au cours du soir et obtint par la suite un diplôme universitaire et enseigna en éducation spécialisée. Elle acheta une petite maison. Annie se maria au temple et eut 2 enfants. Sarah finit par subir plusieurs opérations des oreilles, et puis finalement bien entendre. Des années plus tard, elle prit sa retraite et fit une mission. Sarah nous remercia souvent et dit que je lui avais appris tellement de choses, particulièrement que je lui dis que mes fils étaient plus importants que la maison. Elle dit que cela lui a appris que c'était ce qu'elle devait faire avec Annie. Sarah est une femme tout à fait remarquable. Fin de citation. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour sauver les autres de la souffrance et des fardeaux. Toutefois, notre plus grand service rédempteur sera de les conduire au Christ. Sans sa rédemption de la mort et du péché, tout ce que nous avons, c'est un évangile de justice sociale. Cela peut apporter une certaine aide et une certaine réconciliation maintenant, mais cela n'a pas le pouvoir de faire descendre des cieux la justice parfaite et la miséricorde infinie. La rédemption ultime est en Jésus-Christ et en lui seul. Je le reconnais humblement et avec gratitude comme le rédempteur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
À la fin de cette conférence, nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont travaillé diligemment à préparer ces sessions. Nous remercions les orateurs et les personnes qui ont interprété une musique édifiante. Nous aurons à présent l'honneur d'entendre le président Monson. Après son discours de conclusion, le chœur clora cette conférence en chantant « Quand vient l'heure de se quitter ?» Ensuite, Larry E. Wilson, des 70, fera la prière de clôture. La prochaine conférence aura lieu dans 6 mois.
Hi, brothers and sisters.
Mes chers frères et sœurs, quelle belle conférence nous avons eue. Je sais que vous serez d'accord avec moi pour dire que les messages ont été inspirants. Notre cœur a été touché et notre témoignage de cette œuvre divine a été fortifié du fait que nous avons ressenti l'Esprit du Seigneur. Puissions-nous longtemps nous souvenir de ce que nous avons entendu au cours de ces 2 derniers jours. Je vous exhorte à continuer d'étudier les messages qui te seront publiés dans les prochains numéros de l'Ensign et du Liaona. Nous exprimons notre reconnaissance à tous les orateurs, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont fait les prières. De plus, la musique a été édifiante et inspirante. Nous aimons notre magnifique chœur de tabernacle et nous remercions aussi tous les autres chœurs qui ont assuré la musique. Nous unissons pour exprimer notre reconnaissance à la présidence et aux membres du bureau général des jeunes filles qui ont été relevées hier. Elles ont servi de manière remarquable, avec un dévouement total. Nous avons soutenu, en levant la main, les frères et les sœurs qui ont été appelés à des nouveaux postes pendant la conférence. Nous tenons à ce qu'ils sachent que nous sommes impatients d'œuvrer avec eux dans la cause du Maître. Nous sommes une église mondiale, mes frères et sœurs. Les membres de notre église se trouvent partout dans le monde. Je vous exhorte à être de bons citoyens du pays dans lequel vous vivez et de bons voisins dans votre collectivité, en vous tournant vers les personnes d'autres confessions comme de la nôtre. Puissions-nous être tolérants, bienveillants et aimants à l'égard des personnes qui n'ont pas nos croyances et nos principes. Le Sauveur a apporté à la terre un message d'amour et de bonne volonté pour tous les hommes et toutes les femmes. Puissions-nous toujours suivre son exemple. Je prie pour que nous soyons conscients des besoins des gens qui nous entourent. Il y en a en particulier parmi les jeunes qui sont pris de manière tragique dans la drogue, l'immoralité, la pornographie, etc. De plus, certains se sentent seuls, par exemple les veuves et les veufs, qui se languissent de la compagnie et de la sollicitude d'autres personnes. Puissions-nous toujours être prêts à leur tendre une main secourable et à leur offrir notre cœur aimant. Nous vivons à une époque de l'histoire du monde où il y a de nombreuses difficultés, mais aussi de grandes possibilités et des raisons de se réjouir. Il y a bien sûr des moments où nous connaissons la déception, le chagrin et même la tragédie. Cependant, si nous voulons bien placer notre confiance dans le Seigneur, il nous aidera à surmonter nos difficultés, quelles qu'elles soient. Le psalmiste a donné cette assurance. Le soir arrivent les pleurs, et le matin, l'allégresse. Mes frères et sœurs, je tiens à ce que vous sachiez combien je suis reconnaissant que l'Évangile de Jésus-Christ ait été rétabli en ces derniers jours par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète. C'est la clé de notre bonheur. Puissions-nous être humbles et nous a donné la prière, ayant foi que notre Père Céleste peut nous guider et nous bénir. Je vous rends mon témoignage personnel que Dieu vit, qu'il entend les prières qui émanent des cœurs humbles. Son Fils, notre Sauveur et Rédempteur, dit à chacun d'entre nous, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Puissions-nous croire ces paroles et tirer parti de cette promesse. À la fin de cette conférence, je demande au ciel de bénir chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, que votre foyer soit rempli de paix, d'harmonie, de courtoisie et d'amour, qu'il soit rempli de l'Esprit du Seigneur. Puissiez-vous nourrir votre témoignage de l'Évangile afin qu'il soit pour vous une protection contre les attaques de Satan. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans 6 mois, je prie le Seigneur de vous bénir, êtes-vous protégés, mes frères et sœurs. Que la paix qu'il a promise soit avec vous, maintenant et à jamais. Je vous remercie de vos prières pour moi et pour toutes les autorités générales. Nous sommes profondément reconnaissants de chacun de vous. Au nom de notre Sauveur, notre Rédempteur que nous servons, Jésus-Christ, le Seigneur. Amen.
Our Father in heaven,
notre Père céleste, du plus profond de notre âme, nous exprimons notre reconnaissance pour cette conférence générale de l'Église. Nous avons été véritablement élevés vers le ciel par les messages et la musique édifiante que nous avons entendus. Nous te remercions de pouvoir vivre à une époque de miracles, à une époque de révélations. À une époque où nous pouvons entendre la voix prophétique et comprendre comment nous comporter dans ces temps troublés. Nous prions pour recevoir ta bénédiction tandis que nous allons de l'avant de cette conférence afin que nous ne marchions pas seulement dans la lumière, mais que nous puissions être la lumière du monde et nous refléter la lumière du Christ dans notre vie et de la partager avec d'autres dans tout ce que nous faisons et disons. Nous te remercions, ô Dieu, pour un prophète dans ces derniers jours. Aide-nous à marcher dans et à suivre les conseils que nous avons reçus dans cette conférence. Nous te demandons ces choses au nom de notre Seigneur bien-aimé Jésus-Christ. Amen.
This has been a broadcast of the 183rd annual.
Vous venez d'assister à une session de la 183e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.